Bonjour, professeur Tim Sitt. Vous êtes chef de service de la médecine intensive et réanimation à l'hôpital Bichat. Alors merci beaucoup de la rapidité avec laquelle vous avez répondu à notre demande de podcast qui est dédiée aujourd'hui au Covid-19. En introduction, nous précisons que ce podcast exceptionnel est un état des connaissances à un instant donné et donc susceptible d'évoluer. Donc, première question, quelles précautions prendre face à un patient Covid+, face à un patient contact et face à un patient suspect?
Pour aller voir les patients, il est indispensable d'éviter un maximum la contagiosité. Il faut savoir que la contagiosité est relativement minimale chez les patients asymptomatiques, qu'elle est d'emblée maximum dès les premiers signes cliniques, même des signes peu sévères, et qu'elle va être probablement assez importante au moment des signes respiratoires, avec souvent des toux incoercibles. La durée d'excrétion virale est probablement, sans qu'on ait complètement les données, de 14 jours après les premiers signes cliniques. Et la question qui se pose, c'est combien de temps on doit continuer à avoir des précautions d'isolement. Et pour l'instant, cette question n'est pas totalement résolue. Ce virus respiratoire se multiplie dans les épithéliums, essentiellement respiratoires, mais aussi les voies aériennes supérieures et un petit peu sur l'épithélium digestif. On commence à avoir quelques données sur la survie, sur les surfaces du virus. Elle est de quelques minutes à quelques heures sur les surfaces lisses et les surfaces métalliques. Et il est décrit de façon récente dans la littérature des survies sur du carton en particulier pendant plusieurs jours. Savoir que la survie du virus est à des quantités extrêmement limitées et que probablement la contagiosité de ces virus sur ces surfaces est relativement faible. Donc il faut avoir bien ces données en tête avant de parler des mesures d'hygiène. Alors bien entendu, maintenant, et je pense que c'est général pour l'ensemble des malades que vous allez voir, quelle que soit leur symptomatologie, il faut aller voir les malades avec un masque de soin avant pour les prendre en charge. C'est clair que les gouttelettes sont le principal mode de contamination et de très loin de ce type de virus. Alors un masque de soin, attention, il y a un certain nombre de règles à respecter. C'est un filtre respiratoire et donc votre filtre respiratoire va accumuler les sécrétions positives au virus. Donc il est absolument indispensable de ne pas se toucher le nez et si vous le mettez et l'enlevez, de l'enlever par les lanières et pas du tout comme on a l'habitude de le faire, en pinçant par le nez et en les attrapant par le masque. Donc ne pas toucher son masque facial quand on a un masque de soins. C'est une chose absolument majeure qu'il faut bien avoir en tête et cette hygiène est importante. Il est probable, et on sait que la durée de vie des masques est de l'ordre de 4 heures, mais n'oubliez pas que vraiment des masques respiratoires, et donc si vous avez le tic de vous gratter le nez, comme c'est très fréquent, n'oubliez pas que vous avez contaminé vos mains, et dans ces cas-là, vous prenez votre solution hydroalcoolique qui doit être dans votre poche, ou qui est partout en soins, et vous nettoyez les mains avec ces solutions hydroalcooliques qui sont extrêmement efficaces. La plupart des nettoyants de surface sont aussi extrêmement efficaces. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est quand vous avez un malade Covid+, quand ils sont pris en charge en réanimation, en particulier, ils sont extrêmement contagieux par les soins respiratoires. Et donc, quels que soient les soins respiratoires qui sont faits, ou les manipulations de proximité, ou l'examen clinique, il faut utiliser un masque FFP2 pour essayer de diminuer la contamination par ce biais. Et il faut aussi utiliser des lunettes, parce qu'il peut y avoir des sécrétions et des contaminations par les conjonctives. Enfin, pour essayer d'éviter la contamination croisée et de limiter la présence du virus sur les surfaces et sur les mains, il est vivement conseillé de porter non seulement une casaque plutôt étanche, et des gants pour examiner les malades. Bien entendu, non stériles dans ces situations-là. Pour rentrer dans les chambres de malades Covid, par contre, on est en train de dégrader progressivement les procédures. Et si vous avez qu'à entrer, éteindre une alarme ou juste prendre quelque chose dans la chambre, il est maintenant recommandé par les sociétés d'hygiène de ne rentrer qu'avec un masque chirurgical ou un masque de soins pour faire ces choses-là. Mais bien entendu, dès qu'on s'approche du malade, qu'on fait des soins rapprochés, là pour le coup la tenue doit être complète. Pour les patients contact, si vous avez un patient contact asymptomatique qui vient vous voir, par exemple des familles de malades, bien entendu vous leur faites porter un masque, ce qui va diminuer considérablement la contamination, Vous leur demandez s'ils ont des signes cliniques, s'ils ont des signes cliniques qui se rapprochent du SMIT, pour voir s'il y a une éviction qui doit être faite, s'il y a un prélèvement qui doit être fait ou pas. Là encore, on est en train de dégrader les procédures, et les malades post-symptomatiques ne sont plus prélevés, mais par contre sont enjoints à un confinement qui est tout à fait important. Bien sûr, si les patients reviennent positifs, la situation est la même. Pour les malades qui sont suspects de Covid et qui ne le sont pas encore, la première chose à faire, c'est de regarder très finement leur radiographie thoracique et leur scanner thoracique, surtout si vous en avez un peu. Ils ont très souvent des signes interstitiels qui vous font dire, bon, il n'est pas encore Covid positif, mais il va l'être. Et la deuxième chose à faire, c'est de les considérer comme des Covid positifs jusqu'à preuve du contraire, en particulier sur les malades graves, pour lesquels les sanctions thérapeutiques vont être un petit peu différentes.
Deuxième question, quelles sont les stratégies diagnostiques et les patients concernés ?
Stratégie diagnostique pour les patients concernés. Soit les patients n'ont pas de signes cliniques, et donc ils sont juste contact, et il n'y a rien de particulier à faire, sauf leur rappeler les précautions d'hygiène que raconte l'ensemble des médias à l'heure actuelle. Si les patients sont symptomatiques, mais peu sévères, ils doivent être suivis et identifiés par le SMIT, et peuvent être suivis soit à domicile, et il commence à y avoir des applications de suivi à domicile, soit rentrer chez eux avec un suivi par leur médecin traitant ou par le SMIT, en sachant qu'ils n'auront pas de prélèvement particulier. S'ils présentent des signes plus sévères, avec des signes et un tableau de pneumonie, dans ces cas-là, il faut adopter une attitude qui va dépendre un petit peu des besoins et des possibilités virologiques, sachant que les labos sont un peu débordés à l'heure actuelle. De plus en plus, on ne fait un prélèvement virologique que pour les patients les plus sévères. Pour les patients moins sévères, ils rentrent à la maison sans prélèvement particulier. Si les patients sont hospitalisés et s'ils ont des comorbidités particulières ou si c'est des patients soignants, on les prélève au niveau du laboratoire de virologie. Il faut les entrer dans la filière SMIT de suivi des patients en ambulatoire pour voir quoi faire avec eux. Si les patients sont plus sévères, bien entendu, essayez d'avoir un prélèvement virologique. Ce prélèvement virologique peut être fait en urgence si vous avez un laboratoire de virologie chez vous. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les tests simples prennent environ 5 heures, qu'il y a des tests rapides qui vont probablement être disponibles dans les prochains jours, qui vont permettre d'avoir un résultat en 1h15. Bien entendu, votre prise en charge des malades ne va pas être différente pour les patients en attente de prélèvement et les patients positifs, donc vous allez avoir un maximum de précautions au départ. Plus les patients sont sévères et plus vous allez faire attention à ça. Si vous n'avez qu'un risque faible, et en particulier si les malades sont venus pour autre chose, méfiez-vous si vous voyez sur un scanner des images interstitielles, quelle que soit la raison pour laquelle le scanner thoracique ait été réalisé, le risque est en train d'augmenter de façon considérable, le risque qu'il soit Covid positif et admis à l'hôpital pour d'autres raisons est très important. Et dans ces cas-là, ce scanner doit être un signe d'appel pour éventuellement demander un prélèvement virologique, soit dans les runs habituels, soit en test rapide dans les prochains jours.
Enfin, quels sont les grands principes de la prise en charge et les traitements spécifiques ?
Alors, la symptomatologie est essentiellement respiratoire. Et donc, la prise en charge est celle d'une insuffisance respiratoire aiguë et il faut la gérer comme telle ou d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Donc, les règles de recommandation édictées par les RFE sur la RDS s'appliquent tout à fait bien à ce type de patient. En premier temps, ils sont souvent relativement hypoxiques, mais méfiez-vous, ces malades, surtout si la date des premiers symptômes est de moins de 14 jours, sont à risque de s'aggraver. Donc très souvent, si vous avez plus de 3 litres d'oxygène avec moins de 94% de saturation, en fonction de vos possibilités de prise en charge en réanimation, il est logique de les mettre dans des lits de soins intermédiaires ou dans les lits de réanimation, sachant que dans les premiers jours, le risque d'aggravation est assez important. Dans notre expérience, la plupart des malades qui sont arrivés relativement tôt après les premiers signes respiratoires ont tous, en quelques jours, évolué vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte. Par contre, certains malades ont une aggravation respiratoire assez tardivement par rapport aux premiers symptômes respiratoires, vers J14, et dans ce cas-là, parfois la symptomatologie va passer comme ça. Donc attention de ne pas passer trop vite les malades en salle s'ils ont moins de 94 de saturation sous 3 litres d'oxygène. La première prise en charge est bien sûr l'oxygène à moyen débit. en sachant que 6 litres d'oxygène permet une aérosolisation minimale. Bien entendu, si les malades sont hypoxiques, il n'est pas question de s'arrêter là, il faudra augmenter le débit d'oxygène pour obtenir des saturations qui sont compatibles avec la vie. Théoriquement, l'OptiFlow, qui aérosolise plus, va avoir un risque d'aérosolisation plus important et de contamination de l'environnement qui est plus important. Bien entendu, la vie du malade va jouer un rôle, le fait que vous ayez des pressions négatives dans les locaux va jouer un rôle, et le fait qu'il y ait une stratégie d'équipe avec un isolement et un confinement et un isolement des patients qui est bien fait, va bien sûr jouer un rôle sur l'utilisation de l'OptiFlow. Initialement, on démarrait plutôt à 30 litres, mais 30 litres, c'est pas énorme. Pour essayer de diminuer l'aérosolisation, si ça ne suffit pas, il faudra monter progressivement l'OptiFlow. Théoriquement, la ventilation non-invasive n'est pas indiquée chez ces patients-là, parce que ça aérosolise encore plus. Il faut savoir si les malades sont en décompensation de bronchopathie chronique, peut-être le rapport coût-bénéfice sera en faveur de l'utilisation de la ventilation non-invasive. Dans certains cas, la ventilation non-invasive peut être proposée sur des malades de soins intermédiaires pour lesquels l'intubation ventilation mécanique ne paraît pas raisonnable. Et pour certains malades, sous réserve qu'on ait des flux négatifs, qu'on ait un isolement respiratoire de bonne qualité, pour certains malades, elle peut être tentée, bien qu'elle ne soit pas indiquée, ou en tout cas relativement dangereuse en termes de contamination secondaire et de contamination de l'environnement pour les malades standards. Ensuite, si la situation s'aggrave, et elle peut s'aggraver relativement vite, il est évident qu'il va falloir les intuber et les ventiler mécaniquement. La procédure d'intubation est bien entendu difficile, puisque c'est des malades en insuffisance respiratoire aiguë, pour lesquels la réserve respiratoire est faible. La première recommandation est bien sûr de les dénitrogéner, de les oxygéner en oxygène pur, comme c'est recommandé habituellement, et de faire une anesthésie très classique, avec une curarisation, en essayant de ne pas les ballonner, pas les ventiler à l'embut, pour essayer de diminuer la contamination de l'environnement et les intuber comme ça, si possible, avec une procédure qui n'utilisera pas particulièrement de ventilation à l'embut. Si l'intubation se passe bien, ça ne posera pas de soucis particuliers. Pour ce faire, et actuellement, on préfère avoir deux médecins seniors sur place, dans la chambre, de rentrer les kits d'intubation difficile directement dans la chambre, de façon à ne pas courir dans tous les sens. Il vous faut une infirmière dédiée, qui soit équipée bien entendu, et éventuellement une deuxième personne pour vous aider. Et encore une fois, deux médecins paraît préférable et raisonnable pour une intubation dans de bonnes conditions de ce type de malade. En dehors de la ventilation mécanique et du traitement symptomatique du syndrome de détresse respiratoire aiguë, y a-t-il un certain nombre de règles à respecter ? Le premier, c'est que c'est bien évidemment une pneumonie communautaire, que de temps en temps il y a une co-infection, en tout cas dans l'épidémie de grippe qui vient de finir, il y a de temps en temps des co-infections avec la grippe. On a eu aussi des co-infections avec certaines bactéries, mais c'est relativement rare. Et il faut bien entendu partir sur un traitement antibiotique de base de la pneumonie communautaire sévère. Une fois que vous avez éliminé les diagnostics de pneumonie bactérienne ou de surinfection, qui sont relativement finalement peu fréquents par rapport à la grippe, bien entendu, vous pourrez arrêter au bout de 24-48 heures l'antibiothérapie antibactérienne qui n'a pas d'intérêt particulier dans cette maladie. Les infections nosocomiales surviennent un peu plus tardivement, elles sont quand même beaucoup moins fréquentes qu'avec la grippe. Et bien entendu, l'attitude va ressembler à celle d'un malade en ARDS. On a l'impression que la surinfection bactérienne est plutôt moins fréquente que dans les maladies habituelles de type PSDRA ou même pneumonie grippale. Pour ce qui est des traitements étiologiques, aucun traitement étiologique n'a prouvé son efficacité. On sait qu'un certain nombre d'antiviraux sont efficaces pour diminuer la charge virale et la croissance virale in vitro ou sur des modèles animaux. Les principaux utilisés à l'heure actuelle sont le remdesivir, qui a été utilisé comme médicament contre l'Ebola. Il est en test à l'heure actuelle et très difficile d'accès en dehors des essais cliniques. L'autre médicament possible, c'est le lopinavir-ritonavir, pour lequel il y a aussi une efficacité antivirale qui est relativement modérée. Il faut savoir que c'est des médicaments qui sont très inducteurs enzymatiques et qui augmentent la concentration de la plupart des autres médicaments que vous utilisez. Donc à manier avec une certaine prudence, les doses utilisées sont les mêmes que celles qui sont données dans le traitement anti-HIV. Gardez en tête que les comprimés sont théoriquement pas pilables et que la biodisponibilité des comprimés pilés sur une sonde gastrique n'est pas du tout évidente et que probablement la solution buvable, si elle est disponible, est préférable. Enfin, l'oseltamivir a une toute petite activité qui pourrait être éventuellement intéressante dans ce type de maladie. Encore une fois, aucune donnée clinique ne permet de prouver que ce type de médicament améliore le pronostic des malades atteints de pneumonie Covid. Pour ce qui est des traitements immunomodulateurs, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont très proches de ceux du MERS, qui montrent qu'il y a un orage cytokinique très important avec une réaction pro-inflammatoire tout à fait importante, pour lequel se discute, mais là encore, il n'y a aucune donnée propre à l'heure actuelle qui permette de le faire de façon systématique, une corticothérapie dont le régime et la durée n'est encore pas tout à fait clair. Les autres médicaments qui se discutent, c'est des médicaments qui vont jouer sur l'immunité pro-inflammatoire, essentiellement les médicaments qui vont inhiber l'IL-6, l'IL-1, et d'autres projets de recherche sont en cours de développement pour d'autres types de molécules. En aucun cas, ce type de molécule ne doit être étudié en routine pour l'instant, car on n'a absolument aucun recul sur les possibilités d'amélioration et d'aggravation liées à ce type de traitement et aux complications et aux effets secondaires. Voilà, merci. J'espère que ça vous éclairera pour la suite et bon courage.
Encore merci, professeur Timsit, pour ce podcast qui va nous être extrêmement utile. Et toute la commission jeune de la SRLF souhaite bon courage à tous les soignants, bon courage à tous.